exercice, prouver la formule de Bessel-Parseval. Donc la première chose à faire, c'est de... On va travailler sur les sous-espaces de dimension finie. Donc on est dans un espace de Hilbert grand V, et puis on va considérer l'espace Vn, qui va être l'espace engendré par les combinaisons linéaires finies avec les éléments de base qui sont E1 jusqu'à En. Voilà. Donc on va, première question, ça va être de se demander... Donc ici, on va prendre un élément U appartenant à grand V donné. Donc je dis de suite que ça veut dire que la norme de U pour la norme V va être finie. Hein. Attention, cette condition peut sembler anodine à ce stade, mais à un certain moment, ça va poser des problèmes pour un certain nombre d'entre vous ce matin. Donc la première question, on demande l'expression de Pn de U, la projection Pn de U égale ce qui est la projection orthogonale. Orthogonale sur Vn. Orthogonale sur Vn. Donc la première chose qu'on peut remarquer, c'est qu'on peut en effet appliquer le théorème de projection orthogonale, parce que le sous-espace Vn est de dimension finie, donc fermé, et qu'on est dans un Hilbert. Donc on a la caractérisation du projeté orthogonal, qui est Pn de U moins U, produit scalaire avec tout élément V, ou plutôt on va dire W, est égal à 0 pour tout W appartenant à Vn. Donc ici, en fait, le plus simple est de prendre W égale EI, avec, enfin un des éléments de base avec I qui est un élément entre 1 et petit n. Et donc vous obtenez que Pn de U moins U pour des scalaires EI est égal à 0 pour tout I égal de, allant de 1 à n. Par ailleurs, et donc là c'est ça qui est important, par ailleurs, vous avez que Pn de U appartient à Vn. Donc ça veut dire que Pn de U, on peut l'écrire comme une somme de CmEm pour m égale 1 à petit n. Donc du coup, quand on met ces deux égalités en regard, celle-ci et celle-ci, qu'est-ce qu'on en déduit en remplaçant ici Pn de U par son expression? On obtient du coup que Ci est égal à UEI. Voilà. Donc ça, je vous l'ai fait ici pour des espaces qui sont euclidiens. Si je faisais des espaces hermitiens, en fait, il faudrait que j'échange un peu les choses. Et ici, en fait, sur un espace hermitien, ce serait plutôt un CI bar que j'aurais à gauche. Et donc, en fait, quelque part, dans cette inégalité-là, il aurait été plus opportun d'échanger, enfin de mettre le U à droite. Donc vous ferez attention à cet élément-là un petit peu partout, qu'il faut que la fonction U qui apparaît soit toujours à droite, si vous voulez, de la linéarité plutôt que de l'antilinéarité sur les coefficients. Bon, donc ça, c'était la première question qui est finalement assez facile et qui vous montre que, en conclusion de cette première question, que vous avez bien que Pn de U, c'est la somme des EM, U, EM, pour M égale 1 à petit n. Et là, normalement, je me suis arrangé pour que le U soit effectivement à droite dans mon produit scalaire, ce qui me permet d'avoir bien la linéarité par rapport à U dans les deux questions. Dans les deux côtés de linéarité. Donc, deuxième question, c'est de maintenant, donc on a une décomposition sur un nombre fini de composantes et on voudrait passer à la limite. Donc l'objectif de tout cet exercice, c'est d'éviter, éviter des sommes infinies. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu ce matin, voir des sommes doubles infinies. Donc on va s'arranger pour faire les choses proprement pour éviter ces sommes infinies. Donc on va vouloir regarder Pn de U et montrer que c'est une suite de Cauchy. La première étape, on va vouloir montrer que Pn de U, pour n plus grand que 1, c'est une suite qui est borné. Donc en fait, comment on le voit ça? Bah, simplement par le fait que Pn de U dans la norme de V, ça c'est plus petit que la norme de U dans V. Et donc en particulier, je peux mettre ça au carré. Donc pourquoi? Je vais vous le faire sur le côté en rouge. En effet, qu'est-ce qu'on a? On a que, c'est le corollaire de 1, mais on peut le prouver à la main, que Pn de U moins U produit scalaire avec n'importe quel élément W dans le up est égal à 0. Donc ça, W ici, tout ça pour tout W qui appartient à Vn. Donc en particulier, on peut prendre W égale Pn de U. Et alors, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens que la norme de Pn de U au carré, c'est égal à au produit scalaire entre U et Pn de U. Voilà, et ça, c'est plus petit que la norme de U dans V fois la norme de Pn de U dans V. Et donc ça, cette inégalité-là me montre que en effet, Pn de U est plus petit que la norme de U. Voilà, donc ça, c'est la preuve en quelques lignes de ce corollaire de 1. Mais donc, en tout cas, je pars d'ici. Et puis là, Pn de U, c'est bien quelque chose qui est de dimension finie. Donc là, je vais pouvoir écrire sans état d'âme que cette somme-là, c'est bien la somme des U m au carré pour m égale 1 à petit n. Je rappelle que um, ici, a un sens précis, c'est cette chose-là, c'est bien le produit scalaire entre em et u. Voilà. Donc ici, j'ai une borne qui est indépendante de l'indice petit n jusqu'où je vais. Et donc, ça me montre que la série, ici, que la série à terme positif est une série convergente. Donc, je peux faire... On peut passer à la limite... On peut passer à la limite n tend vers plus l'infini et obtenir que la somme de n égale 1 à plus... ou m égale 1 à plus l'infini des um au carré, c'est plus petit que la norme de u au carré et c'est quelque chose donc qui est fini. Donc ici, attention, à ce stade, j'insiste sur le fait que ici j'ai simplement une inégalité. Hein. On verra plus loin qu'en fait c'est une égalité, mais à ce stade c'est simplement une inégalité. Bien, donc à présent donc j'ai que la somme des ui au carré convergente, et donc on va pouvoir voir que Pn est la suite Pn de U pour n plus grand que 1 est de Cauchy dans V. Et de Cauchy dans V. Et pourquoi? En fait, ça, c'est un raisonnement qui est très similaire à ce qu'on a vu la semaine dernière. On va regarder Pn plus P de U moins Pn de U dans la norme de V au carré. Donc, c'est le reste. Enfin, c'est la somme pour M qui va de N plus 1 à N plus P de Ui, Um au carré. Et en particulier, c'est plus petit que la somme pour les m plus grand que n plus 1 des petits um au carré. Donc ça, c'est un reste de série convergente. Donc ça, ça tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Et uniformément en p. Et donc c'est ça qui va nous permettre de montrer qu'on a une suite de Cauchy. Donc là, on pourrait faire bien rigoureux, en prenant epsilon strictement positif, on trouverait un rang grand n tel que la somme des um au carré est plus petite que epsilon au carré pour m qui est plus grand que grand n plus 1, etc. Et alors à ce moment-là, avec ce rang grand n, on voit que la suite, enfin on a bien que cette norme-là, que je vais vous mettre en rouge, ça du coup ça va être plus petit que epsilon carré, si petit n est plus grand que ce grand n, et p est positif. Voilà. Donc, je ne vous détaille pas la fin du raisonnement. C'est assez standard une fois qu'on a remarqué cette chose-là. Donc le point délicat est plutôt dans la question suivante. Donc à ce stade, on a vu que Pn de U est une suite de Cauchy. Comme on travaille sur un espace de Hilbert, on peut en déduire que Pn de U converge lorsque n tend vers plus l'infini vers un certain élément petit v. Et donc là, on aimerait dire, c'est la grande question, hein. Est-ce qu'on a U égale V, ce qui permettra d'avoir le développement de U à partir de V, eux-mêmes à partir des Pn de U. Bien, et donc pour ça, en fait, on va revenir au début de l'exercice, et on va revenir à une caractérisation qui est plutôt par ici, qui est celle-ci, que je vais entourer en bleu ici. Cette caractérisation-là, je vais vous la réécrire et en fait, on va passer à la limite n tend vers plus l'infini dans cette caractérisation. Donc, on rappelle que quoi? Que Pn de U moins U, Pn de U moins U, produit scalaire avec EM, cette chose-là est égale à 0 si N est plus grand que M. Ça, c'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'on a vu à la première question. Bien, donc du coup, on va faire la limite N tend vers plus l'infini. Pn de U converge en norme vers V, et du coup, ça va converger donc vers V moins U EM. Et donc ça, c'est égal à 0. Donc peut-être, en fait, je vais reprendre un petit peu la rédaction, on va faire les choses plus précisément. Donc si on veut faire les choses très rigoureusement, on va fixer d'abord M appartenant à petit n. On a alors quand n tend vers plus l'infini que v moins u em dans le produit scalaire de v est égal à 0. Donc pour ça, je vais peut-être juste pour détailler vraiment les choses. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si je regarde produit scalaire entre v em moins Pn de U EM, ça, en fait, en valeur absolue, cette chose-là est plus petite que quoi ? Que la différence entre V moins Pn de U dans la norme de V fois la norme de EM, qui est égale à 1, et puis ça, ça tend vers 0, parce que la suite Pn de U converge vers V. Donc du coup, on a bien que ce coefficient ici converge vers celui-là. Voilà, ce que j'ai utilisé quand j'ai écrit ici cette égalité-là. Donc maintenant, on aimerait en déduire que U est égal à V. Et donc là, on utilise un petit résultat. Je l'écris de manière chic sous la forme d'un lemme. C'est que si W de grand V est tel que W EM est égal à 0 pour tout M plus grand que 1, alors on aimerait conclure que W est l'élément nul de V. Voilà, et puis du coup, on appliquera ce résultat avec W égale U moins V. La preuve, comment on fait ? C'est un petit peu comme en dimension finie, sauf qu'ici, ce qu'on va utiliser, c'est le fait qu'on a une base hilbertienne, donc on a un élément de densité. Donc on va faire les choses rigoureusement en évitant les sommes infinies. Donc pour ça, on va prendre un epsilon strictement positif. Et du coup, on va écrire W sous la forme de quoi ? Sous la forme de W... je ne vais pas l'écrire W. En fait, je vais écrire ça sous la forme de certains coefficients. On va appeler ça CMEM. Pour M égale 1 à un certain grand N epsilon, plus un certain W indice epsilon. Et puis, je vais y mettre un chapeau. Donc ici, j'ai dit quoi ? Qu'il en fait, il existe un rang N epsilon. Un entier, et qu'il existe un élément de W tel que quoi ? Tel qu'on ait cette décomposition avec la norme de W chapeau de epsilon dans grand V qui est plus petite que epsilon. Et donc là, ici, ce que j'utilise, c'est la densité de la base pour écrire en fait W comme une combinaison linéaire finie à un petit reste près. Alors, qu'est-ce que j'ai ? Je vais avoir que la norme de W au carré, ça va être égal à le produit scalaire entre W et puis cette somme finie jusqu'à n epsilon. Ça, c'est le premier terme. Et puis, plus W chapeau epsilon. Donc, le premier terme va disparaître. En fait, il disparaît. Pourquoi ? Ici, j'utilise le fait que chacun, le produit scalaire de W avec un élément EM donné, est nul. Et le dernier terme, lui, en fait, quand je regarde, il est plus petit que la norme de W fois epsilon. Puisque ici, j'utilise le fait que j'utilise cette inégalité-là, qui me dit que W chapeau est plus petit qu'epsilon. Et donc, au final, qu'est-ce qui me reste ? Donc, il va me rester que W, dans la norme de V, ça va être plus petit que epsilon, parce que je vais simplifier... Je vais simplifier par la norme de W des deux côtés, si évidemment W est nul. Voilà, mais donc ça c'est vrai pour tout epsilon strictement positif, ce qui montre bien que W est égal à 0. Donc à ce stade, pour récapituler, ainsi qu'est-ce que j'ai montré ? J'ai montré que Pn de U ça converge vers un certain V quand n tend vers plus l'infini et que ce V, en fait, c'est lui-même U. Donc ça, c'est déjà le premier élément qui va me montrer qu'en fait, je peux bien écrire U comme étant la somme des UN, EN pour n égale 1 à plus l'infini, puisqu'on a montré que cette somme, que la somme qui est ici, c'est bien une somme qui est convergente. À partir de là, en fait, on va pouvoir aussi revenir à ce qu'on a fait auparavant, et on va pouvoir vérifier que la norme de u carré, en fait, ça, c'est la limite quand n tend vers l'infini de la norme des pn de u au carré. Donc ça, là, c'est vrai parce qu'en fait, la norme est une application continue. Donc si pn de u tend vers u en norme, bah, du coup, on a aussi que les normes convergent. Et donc, c'est la limite quand n tend vers l'infini de la somme des m au carré pour m égale 1 à petit n. Et cette chose-là, ça s'appelle la somme des um au carré pour n égale 1 à plus l'infini, parce qu'on a vu que cette somme était convergente. Voilà, donc ça c'est la deuxième partie de l'inégalité de Bessel-Parseval. Donc une dernière chose, ce qui est la cinquième question, c'est de comprendre que cette inégalité de Bessel-Parseval n'est pas triviale du tout. Et donc ça, pour ça, on peut prendre comme exemple une fonction qui aurait comme composante un égale 1 sur n. À ce moment-là, on aurait que u, ce serait la somme des 1 sur n, peut-être je vais mettre 1 sur n plus 1, 1 sur n plus 1, une somme de n égale 0 à plus l'infini de en. Donc en ici, il faut comprendre que ce sont des éléments de v. Ça, c'est un élément de v. Et puis du coup, ici, ce sont des éléments du corps de base, k ou r. Donc ce qui est important ici, c'est que cette égalité, elle est bien définie dans v, égalité dans grand V, mais attention, on n'a pas que, quand vous faites la somme des 1 sur n plus 1 en, pour n égale 0 à plus l'infini, vous ne pouvez pas en fait, donc ça, dans la norme de V, ça c'est fini, par contre la somme des, la norme des 1 sur n plus 1 en, écrite comme ça, n égale 0 à plus l'infini, ça fait évidemment la somme des 1 sur n plus 1, parce que les en sont orthonormés, enfin sont norme 1 en particulier, et ça c'est égal à plus l'infini. Donc en fait ici vous avez une, je vais l'écrire en rouge parce que c'est important, vous avez une somme qui n'est pas absolument convergente. Qui n'est pas absolument, enfin ou plutôt pas normalement convergente. Il y a une terminologie... Je vais conserver cette terminologie normalement convergente. Et ce n'est pas grave. Donc évidemment, être normalement convergent, c'est une condition suffisante pour avoir une somme convergente, comme on a vu dans les exercices la semaine dernière. Mais ici, en fait, on peut définir des fonctions par une somme qui n'est pas normalement convergente, mais ça va quand même donner un élément de V qui va être bien, bien défini. Et donc un exemple... Peut-être qu'on va voir la semaine prochaine, ça va être celui des séries de Fourier. On va se placer V qui sera L2 de l'ouvert 0, 1, avec des fonctions périodiques, en fait. Et on va voir qu'on peut représenter des fonctions, une espèce de fonction créneau, comme ça. Hop. On va pouvoir la représenter avec des séries de Fourier. Donc, peut-être je vais mettre quand même qui sont sur les axes. Chuck, 0, puis là c'est f, la fonction. En fait, avec des séries de Fourier, on va pouvoir représenter cette fonction comme étant une somme de sinus et de cosinus, qui va être une bonne approximation la majeure partie du temps. Il va se passer des choses assez désagréables au point de discontinuité, et après on aura à nouveau une bonne approximation. Et donc ce qu'on verra, c'est que du coup, ponctuellement, il y a un problème d'approximation en ces points-là. En revanche, on va avoir une bonne approximation au sens L2. Donc ça veut dire qu'on aura une approximation dans L2. Ça veut dire quelque chose qui marche pour presque tous les points, et puis la zone où ça ne marche pas va devenir de plus en plus petite au fur et à mesure qu'on augmente le degré de l'approximation. Mais vous n'aurez pas forcément une approximation ponctuelle. Et ici, il n'y a pas de contradiction parce que justement, la somme est converge au sens L2, mais ne converge pas absolument ou autre. Et donc, on ne peut pas avoir de résultat de continuité, par exemple, sur la fonction limite. Il faut faire très attention au sens de la convergence dans ce théorème de Bessel-Parseval.